France Culture.
Question d'islam par Al-Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de la création du monde, du mythe de la création, en tout cas pour certains. Qu'en est-il de la cosmogonie, à la fois biblique et coranique? Et j'ai grand plaisir à, pour cela, accueillir Isée Morgenstern. Isée Morgenstern, bonjour.
Bonjour, merci.
Merci à vous, merci de nous faire l'amitié de venir nous parler, vous qui êtes un fin connaisseur du monothéisme abrahamique, je le dis au singulier, ou des trois religions monothéistes. Et puis vous avez cette idée de vouloir expliquer pourquoi il y a trois monothéismes au lieu d'un seul. Vous qui êtes enseignant en philosophie et histoire des religions au centre interdisciplinaire de recherche et d'études juives, vous êtes aussi enseignant à l'université de Toulouse, le Mirail, auteur de nombreux ouvrages incalculable, une grande production, et vous êtes producteur justement de la série télévisée sur l'archéologie de la Bible hébraïque, la Bible dévoilée pour Arte et France 5, comme vous êtes aussi producteur et auteur de Portraits de pèlerins sur la route de Saint-Jacques, et je peux continuer à énumérer votre engagement dans les colloques nationaux et internationaux de rencontres interreligieuses. Et vous qui connaissez effectivement les références scripturaires tant bibliques que coraniques, je m'étais dit, si vous vouliez bien nous parler, d'autant plus qu'il y a des jeunes gens, et notamment musulmans, qui mettent en avant le récit de la création tel qu'il est présenté dans le Coran, alors que nous savons que la cosmogonie, la cosmographie, la cosmologie coranique demeure un peu naïve au regard de l'astrophysique. Et donc, autant connaître la version, si je puis dire, standard, tant au niveau de la Bible d'abord, la Bible hébraïque, et puis celle du Second Testament, et puis nous finirons ensemble avec le Coran, et puis l'approche des mystiques qui vous tient à cœur. Qu'en est-il de la question de la création du monde qui ouvre le texte du Premier Testament?
C'est le premier verset dans la Bible, qui est la Bible à la fois juive et chrétienne, qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Il y a deux choses qui me paraissent intéressantes, pas qu'à moi, mais en tout cas les commentateurs qui ont travaillé sur ce verset unique, c'est que ça commence brutalement, il n'y a pas de mythologie, l'air de rien, et il n'y a pas d'histoire préalable. Il y a Dieu, dont on ne dit pas encore qui c'est, et il crée les cieux et la terre, puis après il y a les six jours de la création.
Ici, Dieu c'est Elohim, c'est un peu le pluriel de majesté.
Absolument, il y a plusieurs noms à Dieu dans la Bible. Pas facile d'expliquer pourquoi il a plusieurs noms, puisque c'est censé être le même. Il y a une hypothèse à laquelle je me suis rallié, c'est comme souvent dans les textes, le début a été ajouté à la fin. Et donc il y avait, et il y a toujours dans la Bible, un commencement qui est Abraham. C'est-à-dire, c'est l'histoire du peuple hébreu, et le début de cette histoire, elle est abrahamique. Mais au 3e siècle, 4e siècle avant notre ère, cette population, donc les fils d'Israël, sont en contact et avec les Mésopotamiens et avec les Égyptiens. Il y a une diaspora très importante dans ces deux empires, et ils sont un peu jaloux. Ils se disent que nous aussi, on doit avoir une cosmogonie. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle ils font une cosmogonie qui n'est ni mésopotamienne, c'est-à-dire avec toutes sortes de dieux qui sont en conflit les uns avec les autres, ni égyptienne, avec des cycles complexes et tout ça. On crée l'univers, et ça a deux avantages, parce que la discussion commence avec Aristote. Ah. Et la personne, on le connaît, qui va conquérir à cette époque le Proche-Orient, même au-delà, c'est Alexandre le Grand. Et Alexandre, son précepteur était Aristote. On n'y pense pas trop souvent. Il lui écrivait pour lui demander des conseils. Et donc, la population qui se trouve sur place, donc en Judée, aujourd'hui ce qu'on appelle la Judée, les territoires palestiniens, c'est-à-dire ce coin, et elle a envie d'être là et elle sait qu'elle doit répondre aussi à Aristote. Et Aristote dit, le monde a existé de tout temps, il est invariant, et donc il n'y a pas d'histoire de création, d'ailleurs il n'en a même jamais entendu parler. Alors pour terminer là-dessus, la création, elle permet deux choses. Un, à savoir qu'il y a une volonté, le monde a une raison d'être là, ce qui n'est pas le cas chez Aristote, ce qui n'est pas le cas ailleurs, et il y a une possibilité d'avoir des miracles, très important pour les religions monothéistes, même pour toutes les religions. Un miracle, c'est le fait de déroger à la création, justement. Et si la création est née d'une volonté, on peut y déroger, Dieu peut y déroger. Et donc, il y a des miracles possibles.
Izzy Morgenstern, qu'en est-il de la théogonie, cette fois-ci en gros de la naissance des dieux, pour le cas babylonien?
Elle est très complexe, je ne me lancerai pas là-dedans, parce qu'il y a, une population de dieux, un peu comme en Grèce, qui est une sorte d'Olympe, et ils sont beaucoup plus affairés entre eux, qu'avec les hommes. Il y a des récits babyloniens qui disent que la naissance de l'homme, la création de l'homme, est un accident. C'est-à-dire, c'est une erreur. Il y en a où ils disent quelque chose que je crois on retrouve dans des hadiths, peut-être pas dans le Coran, mais des hadiths, c'est les dieux s'ennuyaient. Et donc, il y avait du boulot à faire, c'est ce qui est dit dans un texte babylonien, et ils ont besoin d'esclaves pour travailler. Donc, tous ces récits, prennent la présence de l'homme comme anecdotique. Dans les trois monothéismes, l'homme est au centre. Et donc, parce qu'il est... c'est un humanisme. Pardon de dire ça, par les temps qui courent, ça ne se dit pas très bien.
Certains disent que c'est un humanisme théocentré.
Théocentré. Mais il n'existe pas, c'est mon point de vue. J'ai été militant, gauchiste et tout. Il n'y a pas d'humanisme qui ne soit pas théocentré. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'humanisme. Et l'obligation ne peut pas venir des hommes eux-mêmes. Mais c'est une autre discussion. Et donc, ils se sont lancés dans quelque chose qui va justifier la totalité du parcours. Ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir comme successeurs les chrétiens et comme successeurs, bien après, les musulmans, l'islam. Mais il y a une cohérence dans les trois. C'est sous le regard de Dieu. C'est le titre, très beau titre d'un livre d'un Michael Walzer, un sociologue américain, et que sous le regard de Dieu, il y a de la marge. Et en particulier, pour les hommes, il y a du libre-arbitre.
Je ne résiste pas à réagir, mais je ne voulais pas vous interrompre, même si ce n'est pas directement le sujet. Alors, d'aucuns disent, il y aurait, j'utilise le conditionnel par précaution, un humanisme anthropocentré cette fois-ci, conformément à la parole de Terence, l'esclave affranchi, le Carthaginois, quand il disait « je suis homme, rien que de ce qui est humain ne m'est étranger », qui serait donc la base du souci de la personne humaine et de la préoccupation de l'homme, du fait même d'appartenir à l'humanité.
C'est exact. Il manque quelque chose, de mon point de vue, la dimension d'obligation. C'est-à-dire, si les hommes ne s'obligent pas eux-mêmes, et ils ne peuvent pas s'obliger eux-mêmes spontanément, on doit les obliger. Et donc, le récit commence par celui qui oblige, c'est-à-dire Dieu. C'est lui qui a mis tout en route, il a créé Adam, il a créé Ève, il y a deux récits, la création d'Ève, enfin, tout ça est un peu anecdotique, mais l'homme ne s'est pas mis au centre de son fait. Alors que depuis la Révolution française, la tendance est de croire que l'homme s'est mis au centre de son fait.
Oui. C'est vrai, et un jour, si vous voulez bien et vous avez du temps, vous viendriez pour parler exclusivement de ces questions d'humanisme. Et nous poursuivons maintenant sur la création du monde. Pour certains, ce sont des mythes fondateurs. Pour d'autres, ça reste la vérité indépassable telle qu'elle est écrite, d'où le créationnisme. Et c'est ce qui nous intéresse dans l'émission. Qu'en est-il du débat autour de la formule abracadabra, aberrac et dabera. Donc ça a été créé par la parole, ou la parole créatrice, existentiatrice même, si vous permettez le néologisme.
Il y a plusieurs versions selon les monothéismes. Et pour éviter, dans le texte de la Bible hébraïque, il est dit que le chaos était...
Le tohu-bohu.
Oui, le tohu-bohu était premier. Et que c'est Dieu qui a structuré et organisé le chaos. Mais pourquoi est-ce qu'il a organisé le chaos? Et alors, la tradition hébraïque, c'est beaucoup plus le Talmud que la Bible. Donc, c'est, on pourrait dire l'équivalent des hadiths, c'est-à-dire ce qui a été écrit après, dit Dieu avait un plan. Il travaillait comme un architecte. Et la création s'est faite à partir d'un document, et ce document, c'est la Torah. Et donc, il s'est servi d'un plan pour créer le monde. Les chrétiens, qui ne sont pas les catholiques, et puis après les protestants, qui ne voient pas très bien ces logiques, qui sont des logiques, d'une certaine façon, d'une rationalité légaliste. C'est-à-dire, on sait qu'il y a 613 commandements dans la Bible hébraïque, ça fait beaucoup. Donc les chrétiens ont attribué à la parole de Dieu le fait qu'il y avait un compagnon. Il n'était pas seul, Dieu. Est-ce que s'il avait été seul pour créer le monde, il aurait fait n'importe quoi? Ça le laisse un peu entendre. Mais il n'était pas seul. Et il n'y a que dans l'islam, le monde n'existe que parce que Allah l'a voulu. Et il n'y a pas de plan, ni de modèle, ni de parole. Il est dit quelque part, dans un hadith, je l'ai fait parce que ça me plaisait, je voulais qu'on m'admire. Et donc, on est dans quelque chose qui est assez différent.
Alors, l'idée, enfin, à ma connaissance, pas tant la question de l'admiration que de créer le monde ou l'univers tel un miroir pour s'y mirer ou s'y refléter, selon un aphorisme connu, un hadith dit Qudsi, c'est-à-dire qu'il est plutôt une parole sainte sans être une parole prophétique, et ce n'est pas du Coran non plus. J'étais un trésor caché, je voulais être connu, j'ai créé le monde pour m'y mirer, pour être connu, comme dans un reflet. Alors, ce qui joue le rôle du miroir, c'est l'univers tout entier, la création et les splendeurs de la création. Et ce qui joue le rôle du regard, c'est l'amour divin. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un autre qui se trouve être l'homme. Et avant tout, aussi étonnant que ça puisse l'être, avec un lien plutôt d'amour, l'homme qui aime sa créature, et si j'ose dire, à charge pour cette créature, si elle le veut, d'aimer son créateur.
C'est un peu, effectivement, un peu différent. Le christianisme n'est pas très intéressé, j'essaye aussi de ne vexer personne, par la vie sur terre. Et donc, les textes sur la création et l'organisation de la vie terrestre qui viendraient de là sont pas très nombreux. Par contre, le judaïsme, il y a quelques textes du Talmud, pas beaucoup, mais il y en a qui disent « quand on est mort, on est mort ». C'est-à-dire la vie terrestre, c'est là que doivent se dérouler les choses. Et donc l'organisation de la vie terrestre, ce sont ces 613 commandements, parce que cette loi, ces 613 lois, elles portent très peu sur l'organisation de la société. Elles visent à vérifier le fonctionnement de la création. C'est-à-dire que la société peut vivre totalement correctement, sans que tout le monde, par exemple, respecte les rituels alimentaires ou les rituels, par exemple, de ne pas s'habiller avec des vêtements de laine et de lin.
Là, vous parlez plutôt des lois noahides.
Non, de toutes les lois. Bon. Les lois noahides s'adressent à tout le monde, sept lois. Mais dans les 613 commandements, il y en a une quinzaine qui ont un caractère universel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne voleras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais tous les autres sont des lois qui ne s'adressent qu'aux fidèles juifs. C'est-à-dire que les fidèles juifs, ça leur est totalement indifférent, au contraire même, que les autres ne mangent pas du lait et de la viande. C'est fait pour eux. Ça leur est indifférent que ces lois leur permettent à eux de fonctionner, ça c'est important, mais que les autres n'aient pas à les mettre en œuvre. Et donc c'est comme une sorte de labo qui a un règlement interne, et ce règlement interne doit être en adéquation avec la création.
Izzy Morgenstern, vous avez évoqué Aristote avec l'idée du premier moteur immobile qui implique donc l'éternité du monde et un monde immuable. Ce qui a séduit aussi certains philosophes, y compris même des théologiens musulmans, pour plaider la cause ou l'idée de l'éternité du monde. Ça a déplu à d'autres, évidemment. Mais l'argument qui sous-tend tout cela, c'est que Dieu est parfait, si on part de cette idée, et le fait de considérer qu'à un moment donné, il décide, pris d'une lubie, de sortir de sa perfection parce qu'il la considère pas suffisamment bonne pour créer autre chose, est une altération de la perfection fondamentale et intrinsèque divine.
L'argument se tient, ce qui fait que la question de est-ce que le monde a existé de tout temps et est-ce qu'il est immuable et est-ce qu'il est sans mouvement, c'est plusieurs choses qui se recoupent mais qui ne sont pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire les théories d'Aristote, un peu de Platon, elles sont attractives parce qu'elles sont sensées. Mais en même temps, c'est-à-dire on se dit, ça a toujours été comme ça, et Aristote dit quelque chose que je trouve tragique, il dit « il n'y a aucune différence entre un bœuf qui écrase un nid de fourmis et qui les tue toutes en marchant dans un pré, et le toit d'un temple qui s'effondre sur ceux qui prient ». Donc il n'y a pas de logique à la création et il n'y a pas de logique au monde. Et c'est pour sauver cette idée de logique au monde que nos trois penseurs aristotéliciens médiévaux, c'est-à-dire Ibn Rushd, Averroès, Maïmonide et saint Thomas d'Aquin, ont écrit des textes assez emberlificotés, je trouve, pour tenter de sauver les deux. C'est-à-dire sauver l'idée que le monde est préexistant et il a sa logique, mais qu'en même temps, il a fallu que Dieu le mette en œuvre pour que les miracles soient possibles, que le libre-arbitre soit possible, et pour que la vie des hommes ait une valeur, que ça n'est pas comme un temps, le toit d'un temple qui s'effondre sur des gens en prière.
Ce que vous me dites me fait rappeler cette parole ou cette boutade attribuée à saint Augustin, Augustin d'Hippone, dit en reprise par la suite par Luther, qui est à la question « mais que faisait Dieu d'avant la création ?» La réponse a fusé, mais il était en train de tailler des verges pour fouetter ceux qui posent des questions inutiles. Alors, dussions-nous ou dussé-je en recevoir quelques coups, puisque c'est moi qui vous pose les questions sur la création du monde. Il y a le verset de la Genèse cette fois-ci, verset 31, qui nous fait savoir que Dieu se rencontre ou voit que sa propre création avait quelque chose de bon. Oui. Cela était très bon.
Absolument.
Il s'auto-admire ou il s'auto-congratule.
Oui, si c'est lui qui a écrit le texte. Mais surtout, ce qui est dit, c'est que la création du monde est quelque chose de positif. Or, dans l'environnement qui est en particulier l'environnement mésopotamien de l'époque, la création du monde, et puis après chez les gnostiques, est considérée comme un malheur. C'est-à-dire qu'ils n'y voient que des catastrophes et l'incapacité de l'homme à mener à bien un projet progressiste. Le judaïsme se perçoit comme progressiste. Je n'épiloguerai pas pour savoir si ça marche, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il se perçoit. Le christianisme est un peu indifférent au destin de l'homme sur Terre. Il doit s'améliorer, chacun, pour une vie future. L'islam, il y a un hédonisme sur Terre, et cet hédonisme est suffisant. Il n'y a pas d'idée de modification ou de progrès. Il suffit d'avoir une vie de qualité bonne et de craindre Dieu. Donc, cette question ne tombe pas sous le sens. Et bon, on ne va pas faire une émission d'actualité, mais elle va passer souvent, sûrement avant 2027 ou 2028, donc les choses ne vont pas beaucoup changer. Le désarroi actuel ne peut pas être traité si on ne croit pas que la création a un sens.
Il y a un verset coranique, j'anticipe, parce que j'allais suivre les choses, qui est « si nous l'avions voulu, c'est à nous de majesté, c'est Dieu qui parle, créé ce monde par divertissement, nous aurions agi autrement, à supposer que nous eussions voulu nous divertir. Donc, c'est qu'il y a, quand même un but ou une raison de ce monde-ci qui est le lieu du passage pour une aventure terrestre des hommes ici-bas avant de revenir à une vie annoncée comme meilleure et durable auprès de Dieu. Et ceux qui sont extasiés d'amour par des visions béatifiques, l'éclat de la félicité sur le front, je parle un peu comme les mystiques maintenant, trouveront leur juste récompense dès lors que, lors de ce passage-là, ils auraient bien agi, ont été pleins de sollicitude, d'amour et de bonté pour leur prochain, mais même le lointain.
Absolument. Et ce qui justifie partiellement, aux yeux en tout cas du judaïsme, c'est partiel seulement. La présence et la vie sur terre. Le judaïsme est tenu de faire progresser la création. C'est-à-dire que, à partir du moment où le monde a été lancé par Dieu et que les six jours ont permis d'avancer dans les différentes étapes de la création, et puis la création de l'homme, il faut que ça progresse. Et quand ça ne progresse pas, c'est pathétique. C'est-à-dire qu'il se pose la question de « qu'avons-nous fait pour rater cette progression ?»
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, nous parlons particulièrement de la création du monde, à la fois selon les textes bibliques et aussi coraniques, avec le philosophe Isaac Morgenstern qui a enseigné depuis... C'est parce que vous avez commencé tôt, cher Izzy, depuis des décennies... vous avez enseigné la philosophie et l'histoire des religions au Centre interdisciplinaire de recherche et d'études juives. J'allais vous poser cette question, ou dans le sillage de ce que vous disiez juste avant, Isaac Morgenstern, si j'ai bien compris, du point de vue de l'acception ou la présentation du judaïsme. Si le monde est clos, déjà fini, parfait, il n'y a rien à y ajouter, c'est désespérant et c'est pathétique. Et donc, il y aurait ou il y a un partenariat entre Dieu et l'homme, un peu à la manière de cet artiste désargenté qui, sur le boulevard Saint-Michel, fait une belle fresque et à la fin, il tend la craie à un touriste ou à un badaud en lui disant « mets ta marque » en quelque sorte. Donc, mutatis mutandis, on est un peu dans la même situation. On a une création, mais c'est à l'homme aussi de la finir ou de l'achever ou en tout cas de la chérir.
Oui, d'avancer.
Ou d'avancer.
En tout cas, dans le judaïsme, c'est perçu comme ça. Dans le christianisme, c'est l'homme qui doit avancer, pas l'ensemble de la société et pas la collectivité à laquelle s'adresse Dieu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le peuple des fils d'Israël. Là, dans le christianisme, c'est chacun qui doit s'améliorer ou qui doit être améliorable. Et dans l'islam, je dirais, ça va, ça vient. Comme il prend dans les deux, on a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire un monde meilleur, des gens meilleurs, mais au bout du compte, seul Dieu est juge. Et donc, je me permettrai de m'abriter. J'avais fait une série d'émissions avec Youssef Sédik. Il m'avait sorti un raisonnement qui m'est resté, dont je me souviens très bien. Il m'a dit, l'homme, le musulman, n'est pas tenu d'aller jusqu'au bout du chemin. Il fait ce qu'il peut, c'est licite ou illicite, mais le bien et le mal ne sont pas de son ressort. Ils sont du ressort du divin. C'est-à-dire que c'est au moment où il arrive à proximité de Dieu qu'on lui explique ce qu'il a fait et des choses qu'il aurait pu croire bonnes. sont recalés. Et des choses qu'il aurait pu croire mauvaises, il y a un passage comme ça dans le Coran, qui est expliqué à Moïse d'ailleurs, qui ne comprend pas.
Oui, c'est le fameux enseignement par l'absurde, oui. Avec un mystérieux personnage. On trouve ça dans la sourate 18, la sourate de la caverne, qui lui explique des choses qui, de prime abord, paraissent irrationnelles ou en tout cas qui défient l'entendement, c'est vrai.
Dans ces choses, je termine, qui défient l'entendement, il y a le fait que l'homme n'est pas juge de la finalité de ce qu'il a fait. Et dans cette sourate, il est question d'un bateau qui a été coulé, et la personne qui a fait cet acte répréhensible pourrait se sentir coupable, et l'interlocuteur de Moïse dit « Qu'est-ce que tu en sais ? Peut-être que dans ce bateau, il y avait quelqu'un qui s'apprêtait à faire quelque chose de pire que ce que tu as fait. » Une sorte d'Hitler de l'époque.
Oui.
Et donc, tu as fait quelque chose qui avait de la valeur, mais tu ne le savais pas. Et donc, la question du progrès à partir de la création, l'islam, ou en tout cas le Coran, dit que Dieu n'est pas créateur que de ce monde-ci. Il est le créateur de la totalité des mondes. Et donc, il envisage d'autres mondes, la création, et ces autres mondes peuvent servir à remplacer celui-ci, si celui-ci ne fait pas l'affaire. Est-ce que j'ai bien compris ?
Vous avez tout à fait bien compris, cher Izzy Morgenstern. Et si vous me permettez de revenir sur cette exégèse de Youssef Seddik, c'est vrai qu'il y a cette idée fondamentale qui, dans un premier temps, ce qui n'implique pas une démission, une abdication, c'est que lors du passage de la grande Pâque, qui est l'aventure terrestre humaine, c'est « Dis, je crois en Dieu et sois droit ». C'est-à-dire que la foi en Dieu et la croyance en une force créatrice, une intelligence suprême, etc., implique la droiture, une conformité à une éthique réelle, et le reste, il y a des choses qui relèvent du mystère. Ça ne doit pas être, encore une fois, une abdication de la raison, mais ce dont on est censé être dépositaire, c'est un comportement irréprochable à l'égard d'autrui et, par extension, pour l'environnement.
C'est comme ça que je l'avais compris, absolument. Bon.
Alors, moi aussi, j'ai compris, tout comme vous, le raisonnement de notre ami Youssef Seddik. Poursuivons, si vous voulez bien, Izzy Morgenstern. Quand vous avez dit que la Torah existait quasiment 2000 ans avant même la création, et donc c'est conforme à un code ou à un plan ou à un livre, qu'en est-il de la création de la Torah elle-même ? Je suis dans une logique d'une régression à l'infini. Mais
absolument, une logique tout à fait talmudique, qui consiste à poser la question qui fait que c'est pas clos et qu'on peut pas considérer qu'une affaire est close parce qu'on a donné une réponse. Moi, j'ai pas entendu parler de texte sur la création de la Torah elle-même. Elle est juste, c'est déjà beaucoup, préexistante de 2000 ans à la décision de Dieu de créer le monde. Mais ceux qui se sont préoccupés de cette problématique, je dirais, ce sont des adeptes de Leibniz qui avaient eu cette phrase que je trouve magnifique, c'est « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?»
Et d'aucuns disent à propos de la musique, pourquoi y a-t-il de la musique plutôt que du bruit ?
Oui. Et donc, les mystiques, en particulier les mystiques juifs, pas tellement les mystiques chrétiens, pareil parce que c'est pas trop leur domaine d'inquiétude, se sont attachés, en particulier à la période médiévale, avec la Kabbale languedocienne et espagnole, et Barcelone, Gérone et toute la côte, à chercher et à produire des textes sur le moment de la création. Ça, c'est le Zohar, qui décrit la création comme une naissance. Ça perce, ça ne perce pas. Il y a la poche des eaux qui s'ouvre, et c'est la lettre I, qui est la première lettre de Dieu, qui va percer la poche des eaux. Donc, il décrit le moment de la création, pas la création elle-même, mais le moment. Mais évidemment, ce n'était pas suffisant. Et il y a de nombreux kabbalistes qui se sont posés la question de qu'en est-il d'avant la création. C'est-à-dire, comment était organisé l'infini, ce qu'ils appellent le Ein Sof.
Oui.
Et ce Ein Sof ne nous aide pas beaucoup à comprendre, mais en tout cas, c'est à ça qui se sont attachés. Et pour beaucoup, ce qui a préexisté à tout, ce sont les lettres. Il y avait un alphabet, et les lettres ont permis de composer des mots, et ces mots ont permis qu'une création utilisée par Dieu, donc l'alphabet utilisé par Dieu, de créer le monde. Mais je trouve roboratif de penser que des gens se contentent pas de ce qu'ils ont lu, et ils disent « mais avant ». Voilà.
Oui, parce que seuls les philosophes, et parfois on ajoute les enfants, n'interrompent pas la chaîne des pourquoi.
Oui.
Izé Morgenstern, si nous passions un peu, moi je le dis en profane, en tout cas pour le cas du Nouveau Testament, le prologue de Saint Jean, lorsqu'il est dit « au commencement était, alors tantôt la parole, tantôt le verbe, selon les traductions », moi, je dirais le Verbe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et donc, la parole était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et on peut poursuivre le texte. Là, il y a à la fois une parole créatrice, et il y a, dans le temps, ou d'une manière séquentielle, aussi la lumière qui luit ou qui jaillit des ténèbres.
Oui, parce que là, on est dans la filiation qui réunit les trois monothéismes. La création est bonne. Et puisqu'elle est bonne, elle vient neutraliser les ténèbres. On peut en parler. Enfin, oui. Non, on peut en parler, c'est-à-dire ça se discute. Mais en tout cas, en même temps que la création elle-même, que le Verbe créateur est mis en œuvre, en tout cas dans le Nouveau Testament, ça s'illumine. Et c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si le monde n'avait pas été créé comme il a été créé dans les trois monothéismes, on serait dans les ténèbres. Le chaos n'aurait pas été neutralisé. Et il y a quelque chose ici d'optimiste, parce que on a du recul pour le christianisme de 1000 ans, pour le judaïsme, on va dire 3000, mais c'est le calendrier juif qui commence avec le premier jour de la création.
Oui.
5786 ou 87, je crois, c'est depuis le premier jour de la création. Ils ont calculé tous les événements signalés dans la Bible, ils ont additionné, et ils sont arrivés à la conclusion qu'on était à 5700 et quelque chose. À l'époque, moins, puisque cette décision est tombée en, au IIIe siècle de notre ère. Le calendrier et le dogme de la création qui va avec, il est tardif aussi chez les chrétiens.
C'est le concile de Latran.
Absolument. Comme quoi, il faut des décisions institutionnelles pour imposer des choses comme ça qui sont difficilement croyables. Parce que, après tout, qui était là et qui peut en rendre compte? Dans l'islam, la question se pose pas trop. J'ai pas trouvé de texte. J'ai trouvé dans le Coran des remarques de Dieu, Allah, mais qui n'implique pas un calendrier, puisque le calendrier musulman part d'un événement historique, qu'est l'Hijr, et ne donne pas un sens métaphysique particulier à la création.
Il y a ce passage connu, le fameux verset 190 de la sourate 3, qui dit en substance, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans la création des cieux et de la terre, autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis, couchés, ne cessent de méditer cela, disant « Seigneur, tu n'as point créé ceci en vain, gloire à toi et préserve-nous des tourments du feu. » C'est-à-dire que la méditation sur le livre révélé, le livre étalé, le livre univers, avec des correspondances en isomorphie, on va dire, ou en bijection avec le livre révélé, donne une méditation sur le livre intérieur ou le livre de l'âme, disent les mystiques en tout cas.
Oui, mais qu'à ce moment-là, l'homme n'est pas tenu d'être créateur, il est tenu d'organiser sa vie sur Terre. Le concept de création est un concept difficile, même quand on quitte les rivages de la création du monde, parce qu'on vit dans un monde où la vie artistique a énormément d'importance, et c'est un mot, créateur, qu'on entend 50 fois par jour, à la radio, à la télévision, alors qu'en fond, ce sont quand même des gens qui mettent en forme quelque chose de préexistant. Mais bon, l'idée de créer, elle est forte. Elle permet de penser que notre vie n'aura pas été vaine, qu'on aura des enfants, qui donc ces enfants, c'est une création, c'est quelque chose qui va faire du neuf. L'idée de faire du neuf est importante aussi, en tout cas dans l'un des monothéismes en particulier. Donc il y a quelque chose de ce genre. Qui est à la fois positif et en même temps qui sème un certain désordre dans les esprits parce que ça bouge. D'où le fait que, aux États-Unis en particulier, il y a des courants très importants qui sont des courants créationnistes au sens le plus simple du terme, c'est-à-dire qui disent il faut prendre la Bible au pied de la lettre et que ce qui a été fait n'a pas bougé depuis. Ils font des recherches avec des squelettes de dinosaures et ils montrent que ces squelettes de dinosaures sont semblables aux lézards qu'on a actuellement. Enfin, et leur raisonnement se tient, à savoir, au moins, quand le monde a été créé, on savait où on allait. Et depuis, on ne sait plus où on va, parce que la création, c'est délité.
Oui. Ce que vous dites me fait rappeler une anecdote ou une boutade comme ça, c'est qu'un monsieur a organisé un grand rassemblement de platistes, les platistes étant ceux qui pensent que la Terre est plate, et lors de sa prise de parole pour son discours inaugural de ce grand rassemblement, il a dit « Je remercie ceux qui sont venus » de tous les coins du globe. Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de la création du monde, du créationnisme aussi d'une manière incidente avec le philosophe Isaac Morgenstern qui a enseigné et qui enseigne la philosophie et l'histoire des religions au Centre interdisciplinaire de recherche et d'études juives, qui est enseignant à l'université de Toulouse, le Mirail, qui est composé...
Et à Albi, à Champollion.
Et aussi à Champollion, à Albi, il ne faut pas que je l'oublie, et aussi vos travaux de producteur, notamment à la télévision, pour Arte et France Télévisions, France 5, France 3, et surtout vos ouvrages consacrés particulièrement aussi au monothéisme, on peut mettre AU tout court ou AUX pour le monothéisme. Nous parlions tout à l'heure du Concile de Latran, le quatrième, vers 1215, on est au tournant un peu plus que le XIIIe siècle, et là, on va asseoir, enfin, l'Église va asseoir l'idée d'une création ex nihilo. D'accord. Mais qu'en est-il chez les philosophes grecs et même par la suite selon Philon d'Alexandrie?
Au Philon d'Alexandrie, il est le premier d'une longue lignée dans laquelle il y a Averroès, dans laquelle il y a Maïmonide et saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire des philosophes de chacune des religions monothéistes. Il essaye de concilier. Il vit à Alexandrie, où il y a une population de langue grecque, donc juive, mais de langue grecque très importante, et il essaye de concilier Platon, Averroès et le judaïsme. Et il n'y arrive pas très bien. Il faut dire les choses comme elles sont. Il a écrit un livre qui s'appelle « De Principio », qui est, voilà, « De Opificio ».
De Opificio Mundi.
Voilà, De Opificio Mundi. Et il développe cette idée, à savoir que le monde a été créé, ça oui, il faut sauver cette idée, parce qu'elle appartient donc à la Bible, au judaïsme, mais que cette création est compatible avec le fait que depuis qu'elle a été créée, le monde ne bouge plus. Donc on est, comment dirais-je, dans une sorte de compromis entre un philosophe et un pratiquant. Il était lui-même une figure importante du judaïsme alexandrin. Et on va retrouver quelque chose du même genre dans le Guide des égarés de Maïmonide. Tout à fait, Maïmonide était un admirateur d'Aristote. Il était un admirateur sur la fin de sa vie, parce qu'il ne l'a pas bien connu avant, d'Averroès. Ils sont tous les deux andalous et ils ont la même influence philosophique. Et saint Thomas d'Aquin est influencé par les deux. Et ils essayent de trouver cette voie étroite. Quand je dis qu'elle est, vaine, oui, je peux utiliser ce terme, parce que le problème aujourd'hui n'est pas résolu. C'est-à-dire que ils n'ont pas fait progresser l'affaire. Ils ont exprimé leur tourment entre la philosophie et le monothéisme dans des termes à la fois philosophiques et religieux. Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un vous interrompt, quand ça m'est arrivé dans mon cours sur la création, avec le Big Bang, et il dit « Et le Big Bang alors ? Qu'est-ce qu'il y avait avant ?» Ben, je dis « Mais on ne sait pas ce qu'il y avait avant. » Et il dit, mais est-ce que ça ne conforte pas le texte biblique pour Alco?
Oui, mais pardon, Izzy Morgenstern, c'est le avant qui est problématique, parce qu'avant est une catégorie du temps. Or, le temps fait partie de l'univers dans l'espace-temps, et donc si l'univers commence avec le Big Bang, la notion d'avant, en tout cas le vocable avant, n'a pas de sens.
Absolument.
Pour avant. Donc avant n'a pas de sens.
Et donc se repose la question, comment est-on passé d'un avant-avant qui n'a pas de sens à la création? Et là, il n'y a que les mystiques qui ont osé des réponses en disant c'est comme un accouchement. C'est le cas, par exemple, pour le Zohar, où c'est quelque chose qui est, pour les chrétiens, ex nihilo. Mais ex nihilo n'est pas non plus facile à comprendre. C'est un problème qui est tonique, moi je trouve, la question de la création, qui donne envie d'y réfléchir, mais sur lequel on n'a pas énormément avancé.
Mais ici, on remonte à la théogonie d'Hésiode, il y a la notion du chaos, nous en avions parlé avec le tohu-bohu biblique, et il y a aussi l'idée que c'est de ce magma, si je puis dire, ou de ce chaos, de ce désordre, qu'il y a eu d'abord Gaïa, la Terre, et elle-même, ce qui est curieux, c'est la Terre qui engendre, qui va engendrer Uranus, le ciel. Alors que dans le récit biblique ou monothéiste d'une manière générale, il y a d'abord la création de l'homme, de la glaise ou de l'adama, de la terre. Et puis, il y a une question d'interprétation, de compréhension, la femme qui viendra seconde d'un côté ou d'une côte. Je ne sais pas quelle est la bonne formulation.
Il y a les deux.
Et puis, je crois que c'est en hébreu qu'on dit ça, je le dis sous votre contrôle, Izzy Morgenstern, Kaiser Kenegdo. C'est-à-dire qu'elle est à la fois une aide, mais une aide critique ou contestatrice.
Oui, qui est à la fois à ses côtés et contre Kenegdo, donc qui est contre lui. Là, il faut rentrer dans quelque chose qui n'est pas inintéressant, mais qui est un petit peu, pas marginal, mais qui est à l'extérieur de la question de la création. La création dans le judaïsme est une alliance entre Dieu et l'homme, entre l'homme et la femme. Et pour que quelque chose, pour qu'il y ait du neuf, pour essayer de faire simple et court, il faut conjoindre, d'où le terme conjoint, il faut conjoindre des éléments qui sont séparés parce que leur nature est séparée. Donc Dieu et l'homme et la femme, d'une certaine façon, les fils d'Israël et les autres. Et cette idée de conjonction, c'est-à-dire cette idée d'alliance, qui est aujourd'hui une idée difficile à faire admettre. Le christianisme et les Lumières nous ont habitués à être soi-même, depuis Descartes, la source de notre propre cohérence. Mais le judaïsme fonctionne sur l'idée qu'on ne possède qu'une partie de cette cohérence. Et donc, le Ezer Kenegdo, elle est indispensable, parce qu'il faut des enfants. Et il faut continuer. Il y a un passage d'un texte qui s'appelle « Les Maximes des Pères », qui est contemporain du début du christianisme, qui dit « Ça n'est pas à toi de terminer le travail ». Je trouve cette phrase magnifique, surtout pour des gens comme nous, qui avons tendance à vouloir boucler tout ce qu'on fait. « Ce n'est pas à nous de terminer le travail », dit ce texte, parce que il faut que des conjonctions, des conjointements, permettent de faire du neuf. Est-ce que la question de faire du neuf est encore attractive? Est-ce qu'elle ne fait pas peur aux écologistes et à tous? Est-ce que les dégâts ne sont pas plus grands que ce que nous possédons déjà maintenant et que la tendance qui est de surtout de ne toucher à rien, ne faites pas d'enfants, ne développez pas la terre et l'agriculture, n'est pas en train de l'emporter? Mais c'est ce qui était à l'origine l'hypothèse de la création, des deux créations de la femme. La Bible est pleine de doublons, pleine. Donc c'est pas le seul doublon. Noé rentre dans l'arche avec un couple de chacun des animaux de la création, et il rentre dans l'arche aussi avec, dans un autre texte, avec tous les animaux de la création.
Izzy Morgenstern, comme le temps passe, il s'écoule inexorablement, parlons un peu cette fois-ci de la création d'une veine coranique. Il y a cette idée d'une création renouvelée. D'aucuns vont parler d'une création itérative. C'est comme si Dieu, dans son omnipotence et dans son omniscience, crée, annihile, mais d'une manière alternative et assez rapprochée dans le temps. Donc il y a une persistance comme on l'aurait eu pour la persistance rétinienne, par exemple. Et parce que certains commentateurs et des exégètes s'appuient ou se fondent sur le verset coranique de la sourate 36, verset 81, qui dit « Celui qui a créé les cieux et la terre », d'ailleurs les cieux au pluriel, on pourra en parler, mais en tout cas, « Celui qui a créé les cieux et la terre ne serait-il pas capable de créer leur pareil ?» Et on a dans un autre passage « N'est-ce pas lui qui commence la création, puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et de la terre ? Y a-t-il donc une autre divinité avec Dieu ?»
Il y a quelque chose de similaire, et donc on peut imaginer qu'il le savait, puisque ces récits sont repris dans le Coran, dans le fait que la création, Dieu s'y est repris à plusieurs fois. D'abord, il y a eu un ratage, on peut l'appeler comme ça, de Adam et Ève au paradis. Donc, ils ont été chassés du paradis, il y a eu le premier meurtre entre Abel et Caïn, puis... Une humanité.
Pardon, parce que certains disent c'est le tribut ou la contrepartie de la liberté. S'ils n'avaient pas transgressé l'ordre divin, ils auraient joui des délices paradisiaques éternellement.
Absolument, c'est ce qui est dit, voilà. Oui. Il n'en reste pas moins qu'il y a un échec. L'échec suivant, c'est évidemment l'humanité qui se développe et que Dieu va vouloir supprimer pour recommencer. C'est l'épisode de Noé. Et à nouveau avec la tour de Babel. La Bible hébraïque, on n'y prête pas assez attention. Au début, elle est pleine aussi de recommencements. Et le dernier recommencement, et c'est quelque chose qui me plaît bien, me fait écho à mes années militantes, lorsque Moïse est sur le mont Sinaï et qu'il reçoit les tables de la loi, pendant ce temps, les Hébreux, au pied du mont Sinaï, font un veau d'or avec Aaron. Et Moïse, Dieu s'énerve. Et il dit à Moïse, laisse-moi supprimer cette population complètement et refaire un nouveau peuple avec toi. Et Moïse répond en politique, et c'est là que la réponse me plaît, il dit « Ceux-là, ils descendent d'Abraham. C'est les meilleurs qu'on ait jamais pu avoir. Il n'y a aucune raison que s'ils viennent de moi, ils seraient, comment dirais-je, une population de qualité autre. » Et donc, c'est à ce moment-là que Dieu renonce à recommencer à chaque fois la création, à chaque fois qu'il y a un ratage. Donc, je ne connaissais pas ces passages du Coran, mais il y a quelque chose qui fait un peu écho à la fois à la toute-puissance divine, évidemment, mais au fait que le monde est bien raté, et souvent, et que Dieu peut le remettre, se remettre à l'ouvrage.
Alors, on fait peut-être un lien ou... que ça m'aurait intéressé davantage que vous nous parliez des mystiques et de leurs liens et de leur vision de la création, mais peut-être que j'y reviendrai. Et le fameux néo-créationnisme, alors néo par rapport à quoi? Et surtout le néo-créationnisme chez les musulmans, et notamment chez un certain, il est connu, il a défrayé la chronique, Haroun Yahya.
C'est une des conséquences, oserais-je dire quasi automatique, du fait qu'il faut se prononcer sur la création. Et se prononcer, comme le dossier n'est pas clos, il est possible, y compris en islam, de décider que la création est, comment dirais-je, on ne peut pas y toucher. Et on gagne à la laisser en l'état, parce que on prend un risque inouï en avançant, en détériorant, en recommençant, en créant d'autres mondes dans le monde actuel, en allant avec Elon Musk peupler la planète Mars. Il faut toucher à rien. Et moi, j'ai trouvé, je suis tombé sur ce texte qui m'a un peu étonné. J'ai trouvé étonnant et de qualité, je dois dire, que des musulmans se posent aussi cette question. C'est-à-dire, que faire? C'est-à-dire, pourquoi investir dans le changement de la création alors que cette création a été parfaite, elle a été faite par un Dieu omnipotent, tout-puissant, de grande qualité. Voilà.
Bien. Alors, il se trouve que nous sommes arrivés au terme de l'émission. Eu égard à sa densité, nous aurions pu avoir plus de temps. Si vous nous promettez de revenir pour en parler davantage, vous serez toujours le bienvenu et nous vous en saurons gré. Maintenant, chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam et nous avons reçu aujourd'hui le philosophe Ise Morgenstern pour parler justement de la création et du mythe de la création, et aussi la création dans les trois monothéismes. Vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture, et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Dofar Guéry, et la réalisation par l'ami François Connac.